France Inter. Le 6-9 de l'été, Karine Bécard.
France Inter, 7h45, première invitée de la matinée, Gilles Babinet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes très spécifiquement le digital champion de la France auprès de la Commission européenne. En fait, chaque pays de l'Union a son digital champion qui est chargé de conseiller la Commission européenne sur les grands enjeux du numérique. Je voudrais qu'on parle ce matin, Gilles Babinet, des bénéfices records qui viennent d'être enregistrés en pleine crise du coronavirus par les géants du numérique aux États-Unis, les GAFA. Ce qui est surprenant finalement, c'est que ces entreprises réputées innovantes vivent aujourd'hui de leur rente. Apple, Google, Amazon gagnent beaucoup d'argent, certes, mais essentiellement grâce à des produits qu'elles ont inventés maintenant, il y a déjà quelques années.
Ah oui, tout à fait. C'est des entreprises qui sont en train d'accélérer de façon extrêmement forte, plus 40% en termes de valorisation pour certaines, pour l'une d'entre elles, plus 40% en termes de chiffre d'affaires pour d'autres. Et effectivement, on est en train de se demander si elles sont en train de se décorréler complètement des tendances générales de l'économie qui, rappelons-le, aux États-Unis a baissé de le baisse du PIB est de 30% sur le deuxième trimestre.
Parce que donc, vous nous le confirmez, on n'est pas du tout dans une période d'accélération technologique forte en ce moment, c'est bien cela?
Non, c'est même vraiment une grande inquiétude, c'est de voir qu'il y a peu d'innovation et les économistes se posent la question de savoir si ces entreprises ne sont pas effectivement devenues les entreprises qui tuent l'innovation dans la mesure où dès qu'elles ont un concurrent qui commence à émerger, elles font tout pour le faire disparaître, elles l'achètent, elles le phagocytent et finalement celui-ci disparaît. Donc c'est très très ennuyeux parce que finalement autant les États-Unis sont je dirais par principe pas tellement opposés à l'émergence d'énormes entreprises qu'ils voient comme finalement la quintessence de la réussite, autant les régulateurs commencent à se dire mais finalement peut-être que on est en train de ralentir tout le secteur et qu'il faut qu'on agisse.
Et est-ce qu'on peut dire, Gilles Babinet, que ces GAFA sont devenus, notamment avec la crise du coronavirus, qu'on appelle une valeur refuge pour les investisseurs?
Oui, c'est clair que les analystes qui suivent ces entreprises sont devenus des stars, alors qu'auparavant c'était plutôt des outsiders, des gens qui étaient des analystes de second rang.
Ah, on a perdu notre invité, Gilles Babinet, qui est effectivement... voilà, on le retrouve alors sur une ligne normale.
L'investisseur...
On l'entend moins bien.
...qui souhaite protéger son patrimoine.
Alors, on vous entend un tout petit peu moins bien, Gilles Babinet. On va essayer d'améliorer la communication. Vous nous avez perdu sur une première haute technologie, justement. Ah voilà, je vous entends beaucoup mieux. Donc, on était sur cette idée que ça devient une valeur refuge pour les investisseurs. C'est bien ça? On n'a pas entendu votre réponse et elle m'intéresse.
Oui, c'est très étonnant parce que les analystes américains, aujourd'hui, conseillent ces valeurs. Vraiment des gens qui se comportent comme ce que nous en France on appellerait la veuve de Carpentras, c'est-à-dire la personne qui souhaite absolument pas prendre de risques et qui doit avoir cette valeur en fond de panier pour se protéger. Donc c'est un changement complet parce que les entreprises traditionnelles, ce qu'on appelle les blue chip américaines, sont devenues des entreprises risquées. Si vous prenez du General Motors, par exemple, ou du Ford, ce sont des entreprises qui, en 2008 comme aujourd'hui, sont mises à mal par les crises et sont plus du tout perçues comme des valeurs de fonds de panier d'action.
Alors, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, face à ces GAFA, quelle est la stratégie de la France? Est-ce qu'elle se donne les moyens de lutter et évidemment d'essayer de les concurrencer?
Alors, la stratégie de la France, c'est de faire émerger des startups, mais la France part avec 30 ou 40 ans de retard dans le domaine des technologies de l'information sur les États-Unis. C'est-à-dire que moi, je considère qu'on commence à avoir une stratégie cohérente depuis 5-6 ans. Par exemple, depuis la fondation de la BPI, le public d'investissement, ou encore la création de l'école 42, une grande école dans le domaine du code, ou de Station F, qu'on appelle souvent le plus grand incubateur au monde. Donc c'est très récent, c'est très difficile de revenir sur le plan de la scène, et puis en plus, il ne faut pas escompter concurrencer directement ces mammouths parce que ils ont investi des dizaines, des centaines, on peut parler même collectivement dans le cas du cloud, de milliers de milliards de dollars. Et donc, ce n'est pas des domaines sur lesquels on peut rétablir une concurrence facilement.
Donc, quand Emmanuel Macron nous parle d'un géant du numérique européen, il rêve un peu, ou est-ce que vous pouvez nous dire si ce projet avance, Gilles Babinet ?
Non, il y a vraiment des choses à faire. Moi, je considère par exemple que dans le domaine du B2B, c'est-à-dire des services à l'industrie ou des services aux entreprises, tout reste encore à faire. Dans le domaine de l'agriculture de demain, il y a des choses absolument extraordinaires à faire. Et puis, dans le domaine des supply chains, c'est-à-dire de la distribution des biens et des services, on peut encore faire des choses tout à fait intéressantes. Des domaines, les deux derniers domaines, d'ailleurs, qui sont très largement liés au sujet de résilience, qui deviennent des facteurs essentiels dans cette crise de la Covid.
Mais vous qui travaillez auprès de la Commission européenne, vous avez le sentiment que tous les pays européens, pour une fois, j'ai envie de dire, sur ce sujet, ont envie d'avancer dans le même sens, c'est-à-dire que ce géant pourrait un jour malgré tout exister, ou la volonté commune, encore une fois, n'est pas tout à fait là.
Alors, ça, c'est une chose très intéressante, c'est que vous avez vu récemment qu'on a émis de la dette collectivement en Europe. Et puis également, on se rend compte que dans le domaine de la technologie, on a besoin d'union, on a besoin de le faire ensemble. On a besoin notamment d'avoir un espace de marché qui soit unifié, parce que l'une des forces de la Chine et des États-Unis, c'est finalement d'avoir une piste de décollage avec 330 millions et 1,450 millions de consommateurs, là où en France, on a 70 millions. Et ça a l'air de rien, mais ça change absolument tout, parce que si vous pouvez accéder par Internet directement à 6 fois plus de consommateurs, ben, vos chances de décollage, elles sont 6 fois plus élevées. Et donc, c'est quelque chose qu'on cherche à faire au travers de l'espace unifié européen, faire en sorte que vous ayez de plus en plus les mêmes règles pour faciliter l'émergence des start-up à l'échelle européenne.
Mais cette souveraineté numérique, j'entends un petit peu ça dans votre propos, dans votre discours, ce serait pour quand ?
Ça vient vite. À différents égards. Dans un certain nombre de domaines, on essaye de la mettre en œuvre. Dans le domaine du commerce, on met en place des règles qui sont les mêmes à l'échelle de toute l'Europe. Vous avez sans doute entendu parler du RGPD qui protège les consommateurs et qui est une règle européenne. On a des initiatives comme Galileo, qui est un satellite de géopositionnement extrêmement puissant, plus puissant que le GPS, qui est un dispositif européen également. Donc vous avez par-ci, par-là, un certain nombre de sujets. Ce qu'il faut, c'est ne pas rêver et imaginer qu'on va faire un moteur de recherche européen qui va concurrencer Google, ou une plateforme de cloud qui va concurrencer Amazon. Ça, c'est quelque chose qui n'arrivera pas tout de suite. Il ne faut pas essayer de faire de la concurrence frontale. Il faut aller sur les nouveaux marchés qui commencent à émerger.
Alors, avant la concurrence frontale, on essaie de les taxer, ces GAFA, sur les profits qu'ils réalisent en France et en Europe. Sauf qu'on a un petit peu toujours reculé quand même. Alors, est-ce que cette fois-ci, l'Europe va oser aller jusqu'au bout, notamment pour financer son plan de relance de 750 milliards d'euros ? Vous, Gilles Babinet, qu'est-ce que vous conseillez en ce moment à la Commission européenne ? Faut y aller ou pas ? Faut oser ?
Alors, vous savez, j'ai pas ce rôle de conseil sur ces enjeux fiscaux, qui sont des enjeux qui me dépassent largement. Et je dirais même qu'ils, au début, dépassaient l'Union européenne, parce que si l'Union européenne veut passer à l'action aujourd'hui, c'est parce qu'elle considère que la négociation qui se passait sous l'égide de l'OCDE a échoué. On a pendant des années constaté que la fiscalité qui était née dans les accords de Bretton Woods il y a quasiment 70 ans ne fonctionne plus, pour tout un tas de raisons qui seraient trop longues d'expliquer ici. Et donc on a proposé, notamment aux Américains, de créer un nouveau cadre qu'on appelait au départ BEPS, qui consistait à faire émerger une fiscalité de l'économie virtualisée du 21e siècle. Et puis, les Américains, mais pas qu'eux, un certain nombre de pays se sont retranchés. Les Américains, il y a quelques mois, ont dit « ça marchera pas, on ne peut pas y aller ». avec une certaine mauvaise foi d'ailleurs, je crois. Et pour le coup, l'Union européenne et la France d'ailleurs ont dit, puisque c'est ça, on va créer notre propre fiscalité. Les Américains sont évidemment vent debout contre ça, mais je pense que le momentum est plutôt en faveur de l'Europe qui, finalement, a tout un historique pour défendre l'idée d'une fiscalité qui ressemble à ce qu'était BEPS. Et je pense que c'est assez logique lorsqu'on voit que ces entreprises peuvent très facilement échapper à l'impôt avec des mécanismes qui seraient un peu longs d'expliquer ici, des taxes fallacieuses sur les marques ou ce qu'on appelle le sandwich hollandais. Lorsqu'on voit que ce mécanisme est facile à mettre en œuvre, eh bien finalement il y a une certaine justification à mettre en place ces taxes.
Alors on va voir si votre optimiste sera effectivement entendu. Merci infiniment Gilles Babinet d'avoir été notre invité ce matin sur France Inter. Excellente journée.